Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques portions, quelques passages, quelques versets, quelques lignes dans l'évangile de Luc, le dernier chapitre, le chapitre 24. Nous allons commencer au 45e verset jusqu'au verset 49. Je disais Luc 24, 45 à 49. Lisons au nom de Jésus. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Si c'est ta Bible, souligne ce passage. C'est le 48e verset. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Je veux commencer à bénir le Seigneur pour ce matin de grâce qu'il nous accorde et pour cette faveur imméritée, imméritée de me tenir au devant de cette auguste assemblée, le oint de l'Éternel, les choisis, les appelés et parler de sa part. J'aimerais reconnaître le leadership de mon Église pour cette marque de confiance et ce risque que vous avez pris de me céder cet espace. Au fait, ce que vous ne savez pas, comme j'ai le micro et je suis élevé sur l'estrade, je peux tout communiquer, mais cette confiance, cette marque de confiance de dire notre enfant est maintenant mature, il peut encore communiquer la pensée de l'Éternel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'aimerais reconnaître aussi ceux qui sont pour moi chaque jour un sujet de témoignage. C'est ma famille, ma femme et mes enfants qui, toutefois, ils se sacrifient pour moi. Je me rappelle quand j'ai des soucis et je dois passer des moments, ils sont toujours là avec moi, ils m'encouragent, ils me soutiennent. Et des fois, le cadet là, le petit Jason, il prie pour moi. Il impose ses mains et je me dis, quelle grâce d'avoir une famille comme la mienne. Je suis en train de déclarer du haut de cette chair, pas à moi seulement, mais selon la parole de Dieu, que celui qui a tant de famille reçoive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux reconnaître ce que vous êtes pour moi, mon Église un jour nouveau. C'est une grâce de prendre le micro au devant de cette crème intellectuelle. Je sais que vous lisez la Bible, vous n'êtes pas comme d'autres églises. Vous scrutez les Écritures, vous entrez en fond et tout ce que je veux parler ici, vous allez le balancer à la vérité de la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes un défi pour nous. Nous devons, par la grâce de Dieu, vous donner la nourriture qu'il faut afin que tous devenions parfaits. Que Dieu vous bénisse et j'ai dit merci. Alors, toutefois que j'ai l'habitude de monter du haut de cette chaire, je monte pour jouer aux instruments. Mais ce matin, Dieu m'a fait grâce de ne pas monter pour jouer aux instruments, mais de devenir l'instrument que lui va utiliser. Et je prie ce matin que Dieu te donne le message qu'il a pour toi. Si c'était mes paroles, j'allais commencer à battre ma campagne. Je veux battre la campagne de celui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a appelé. Alors en résumé, tout au long de ce mois, on est en train de parler de témoignages. Et souvent, quand je vois des projets, des grands projets de construction commencer, je vois les ingénieurs isoler l'espace où ils vont construire. Je n'ai pas des explications à vous donner pourquoi ils isolent ces lieux. Peut-être c'est pour protéger les matériaux de construction. Peut-être c'est pour nous préserver de la beauté que cet ouvrage va devenir. Je ne sais pas. Mais le premier dimanche de ce mois, l'homme de Dieu, le pasteur André, nous a dit de bâtir. Bâtis-toi un bon témoignage. C'est un exercice que nous allons faire dans l'isolement. Ou peut-être il n'y a pas des acclamations. Ou peut-être des gens ne nous voient pas. Mais ce que j'aime avec l'image de la construction, c'est que l'ingénieur a un plan. Et chaque jour, il ajuste son plan selon les désirs du propriétaire de la maison. Et le deuxième dimanche, on nous a parlé des dimensions du témoignage. Ça veut dire l'ingénieur modifie les pièces, il voit les dimensions de pièces, il voit les niveaux que la bâtisse doit avoir et il est en train de le préparer. Tout cela, c'est dans l'isolement. Aujourd'hui, le troisième dimanche, l'ouvrage est maintenant presque prêt. On est maintenant en train de faire des travaux de finition et on va maintenant déballer. C'est joli, ce bijou, afin que tout le monde apprécie. Est-ce qu'on va déballer? C'est le petit thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous. C'est ce que nous sommes devenus. Deviens un vrai témoin de Jésus-Christ. Tu peux le dire à ton voisin, deviens un vrai témoin. Deviens un vrai témoin, ça veut dire il y a de faux témoins. Alors ce message poursuit trois objectifs. Le premier, c'est juste aider l'Église à développer plus l'attitude de gratitude au lieu de l'inquiétude. En fait, tu ne peux pas témoigner avec des inquiétudes. Nous sommes témoins de tout ce qui se passe sur le champ de bataille. Des fois, nous pouvons dire tous derrière le phare d'essai. Mais aussi longtemps que cette partie d'inquiétude est dans nos cœurs, on le fait parce qu'on est Congolais. Mais la foi est en train de nous poser la question, est-ce que? Et je déclare que la victoire est certaine. La Bible dit, personne par ses inquiétudes ne peut même ajouter une coudée à sa vie. Alors pourquoi s'inquiéter? Attitude de gratitude. Quand tout ne va pas bien, attitude de gratitude. Quand tout va très bien, attitude de gratitude. Deuxième objectif, je veux encourager quelqu'un à continuer à témoigner Christ. Si tu as commencé ce voyage de témoignage de Christ, je t'encourage de persévérer. Mais aussi, je veux amener les autres à devenir de vrais témoins. Il semble que tu es témoin, mais tu n'as pas encore atteint la dimension de vrai témoin. Et on le saura qui est le vrai témoin de Jésus-Christ. Et enfin, je veux aider quelqu'un à rencontrer Jésus sur son chemin, le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prie que ce message trouve de la place dans ton cœur. Alors je t'encourage à lire ce passage du début à la fin, Luc 24, du 1er au 53e verset à la maison. Et là, tu vas comprendre exactement ce que le Seigneur voulait que nous puissions dire. Je veux commencer à vous donner un court contexte. C'est que ce récit que nous venons de lire décrit deux scènes. Les deux scènes se sont passées le jour où notre Seigneur Jésus était ressuscité. Je dis les jours où le Seigneur Jésus était ressuscité. La Bible dit, si vous commencez, si vous lisez le 10e, le 11e verset, Marie de Magdala, Jeanne et Marie de Jacques et les autres femmes étaient très tôt le matin au sépulcre. Et ils sont revenus là où il y a les disciples. Ils ont donné un témoignage. Ils ont dit, on n'a pas retrouvé le maître. Et quelqu'un nous a dit qu'il serait ressuscité. Ce récit se passe où les disciples ont une information de la résurrection du Seigneur. Pas seulement les femmes, il y a aussi Pierre. Si vous lisez Luc 24, 12, Pierre est aussi parti pour vérifier. J'aime le courage de Pierre. Il a dit, les femmes sont venues. Mais on doute fort des femmes. Hein? Laisse quand même que moi, homme, je parte. Mais je vous dis, ne doutez pas des femmes. Non seulement elles portent la vérité de Dieu, mais elles sont les instruments puissants que Dieu utilise. Ils sont comme si ils sont révélés sur certaines des choses. Si vous n'avez pas encore une femme, je prie que vous ayez une et que vous expérimentiez ces choses. Elles sont comme si elles sont révélées. Elles peuvent te dire, ça mon cher, je ne sais pas. Avec l'orgueil masculin ou masculin, tu y vas, tu y entres et tu y rentres, tu te dis, en tout cas c'était vrai, mais Moté Mezaka Kawana. C'était vrai. Les femmes sont l'instrument que Dieu utilise et il va utiliser. Et Pierre doute de cette information, il se rend seul au sépulcre. Il retrouve le même message. Christ est ressuscité. Il rentre dans la maison où étaient les disciples. Je ne sais pas comment il est rentré, je pense avec des inquiétudes. Mais outi panadie, c'est fini notre histoire. Et quand il entre dans la maison, tous les disciples sont en train de regarder. Pierre, c'est comment? Mon cher, c'est le même message, mais il serait. Et quand je conjugue dans ce temps, vous comprenez ce que je veux donner. Il serait ressuscité. Deuxièmement, comme je venais de dire, les disciples sont découragés. Quoi qu'ils ont l'information que le maître est ressuscité, ils commencent à se décourager. Chacun commence à aller, à vaquer à ses occupations. Si nous lisons les évangiles, il y a ceux qui sont repartis pêcher. Il y a ceux qui sont partis, je ne sais pas faire quoi. Et ce récit où nous lisons, il y a le disciple qu'on appelait Cléopas. La Bible dit, il était en train d'aller à Emmaüs. Je ne sais pas s'il est natif d'Emmaüs. Il dit qu'il était avec un autre disciple. Mais le nom de l'autre disciple n'est pas révélé dans ce passage. Mais les commentateurs disent que Cléopas rentrait à Emmaüs probablement avec sa femme. Et sa femme était qui? Sa femme s'appelle aussi Marie. Et Marie était là au devant de la croix quand on crucifiait Jésus. Emmaüs est à une dizaine de kilomètres. Ils sont en train de rentrer. Et sur le chemin, ils sont en train de parler de la situation. Et je vous dis, c'est encore l'histoire d'une femme. Cette femme Marie, il avait demandé à Cléopas, tu m'enrôles dans ces histoires ici. Je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. Et Cléopas a dit, j'ai vu le maître. Viens, on va chercher le maître. Et quand ils étaient en train de retourner, Marie lui dit, je t'avais dit cette histoire va bâcler. Ton maître est où? Il est parti. Et en discussion, Cléopas est en train de dire, c'est vrai, hein? En tout cas, je n'ai pas su comment cette histoire s'est passée. Comment je n'avais pas suivi ce que tu m'avais dit. Jésus les surprend dans cette discussion. Mais chers, de quoi vous discutez-vous? Ah, mon cher, toi tu ne connais pas cette histoire qui s'est passée à Jérusalem. Ce type qu'on a pensé qu'il était prophète des nations. Il est parti. Ce matin même, il y a des femmes qui sont venues nous dire qu'il serait ressuscité. Et l'un de nous, un homme, mon cher, un homme, il vient confirmer cette information. Il est ressuscité. Jésus, quand il est ressuscité, il est apparu à beaucoup de personnes. Il est apparu à Marie de Magdalène seule. Il paraît, selon Matthieu 28, 9, il était apparu à cette femme quand elle revenait du sépulcre. Il est apparu à Simon-Pierre lui-même. Il vient d'apparaître à ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il était apparu aussi à tous les disciples, sauf Thomas. La Bible dit, quand il était venu, Thomas était absent. Je pense que Thomas était déjà rentré dans ses occupations. Mon cher, il vient de foirer, laisse-moi partir et rentrer dans mes attributions. Mais la bonne nouvelle qu'il est revenu aux disciples et Thomas était présent. Je ne sais pas comment ils sont partis le chercher. Je ne sais pas comment il a su. Il est venu juste accomplir son nom de Thomas. Ce même passage décrit que dans la maison où tous les disciples étaient, Jésus y entre et tous sont dans la peur. Je suis en train de décrire les scénarios. Au pluriel, on dit les scénaristes de cette histoire. C'est le même jour. Les femmes sont venues, Pierre est venu, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus arrive, ils ont toujours peur. Pourquoi? Ils ne sont pas encore au niveau d'être de vrais témoins. Ils sont encore au bas de l'échelle. Dans la maison où ils étaient, Jésus apparaît. Et j'étais en train de dire, s'identifier ou appartenir à une maison, à une assemblée, te donne la chance d'être visité par Jésus. N'abandonnez pas vos assemblées. Dans ces deux scènes, la Bible décrit que avant que Jésus ne parte, il ouvrit leurs yeux. Je vais aller vite, faute de temps. Il ouvrit les yeux. Et ma prière ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux. Non seulement que tu vois l'armée qui t'entoure, mais qu'il t'ouvre les yeux, que tu puisses le voir dans les petites choses, dans le petit témoignage des femmes qui ont vu Jésus, dans le petit témoignage de Pierre qui est en train de dire en titubant. Que Dieu t'ouvre les yeux. Ah, j'ouvre une parenthèse. Je vais vous inviter les dimanches à Cabo de célébration. Moussikose, tu as promis de nous faire du bien. Il y a des gens qui vont voir. Au fait, c'est sous le thème de la reconnaissance. Tu te poses des questions. Je n'ai pas... Sur quoi témoigner? Ce jour, tu témoigneras. Alors, pour finir avec le petit contexte, chaque scène ou chaque scénario finit sur la table. Au fait, avec les disciples d'Emmaüs, ils ont demandé qu'ils restent avec eux parce que c'était le soir. Et là, quand ils voulaient manger, il a pris les dessus. Et comme il le fait, il sait le faire, le Seigneur, au devant de la table. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Dans la maison avec les disciples, Jésus demande, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Pourquoi? Parce que Jésus connaît le secret de la table. Je vous invite encore le dimanche à la table du Seigneur. Beaucoup de choses s'opèrent au devant de la table. Il y a beaucoup de révélations de Jésus autour de la table. Vous vous rappelez que quand Jésus était arrivé chez Marthe et Marie, quand Marthe était en train de s'embrouiller à préparer la nourriture, C'est dans ce premier contact que Lazare a reçu la résurrection. Autour de la table. Le monde connaît ses secrets. Le monde connaît que autour de la table, il y a des grands projets qui se font. Il y a des connexions qui se créent. Jésus chez Zachée, il est en train de manger et il dit à Zachée, maintenant le salut est en train dans cette maison. Autour de la table, il y a des choses que le Seigneur accomplit. Le dernier souper, le Seigneur dit, quelqu'un parmi vous me trahira. Quelle est la place de la communion fraternelle dans notre Église pour témoigner de l'amour et de Dieu? Apocalypse 3, 20 dit, « Voici, moi, le Seigneur, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend, il va ouvrir. Je veux entrer. Je ne viens pas jouer. Je ne viens pas m'hasarder. Je viens manger avec lui. Autour de table. Par définition, devenir veut dire passer d'un état à un autre. Vous passez d'un état brut à un état fini, par exemple. Vous passez de X à Y, c'est ça devenir. Mais j'aime la deuxième définition, c'est un mouvement de transformation. On devient quand on est en train d'être transformé. Et j'aimerais bien que vous reteniez ça. Témoin, c'est toute personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Ça veut dire, on est témoin quand on a vu, on a vécu la scène, mais on est vrai témoin de Jésus quand on a été complètement transformé. Aussi longtemps que la transformation n'a pas été ton partage, tu ne parleras pas de Jésus tel qu'il est. Il est dit souvent que la nature nous forme. Oui, de la nature, Dieu a formé l'homme. La science et les médias nous informent. Le péché nous déforme, mais seul Jésus nous transforme. Il nous transforme pour devenir de vrais témoins. Jésus nous transforme pour que on parle de lui, non seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde. Alors vite, vite, je veux donner une sorte de témoin. J'en ai trouvé quatre. Le premier, c'est un témoin direct. Un témoin direct, c'est celui qui a vécu, qui a vu, qui peut témoigner ce qu'il a entendu. Et là, on parle d'un témoin oculaire ou un témoin auriculaire. Le deuxième témoin, c'est le témoin indirect. C'est celui qui a reçu le message et qui vient le transmettre. Le troisième témoin, c'est un témoin muet. Lui, il ne parlait pas. On le voit, on témoigne directement. Peut-être que c'est difficile de comprendre ce troisième qualité de témoin, mais rappelez-vous que Jésus entre et il dit à Thomas, regarde mes mains, touche mes mains, fais entrer ton doigt. Incrédule. Un témoin muet ne parle pas. Tu le vois, tu comprends. Et le dernier témoin, c'est un témoin transformé. Un témoin transformé n'a pas besoin de beaucoup de réalisations. L'aveugle est en train de dire, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je n'ai pas besoin d'être baptisé, je n'ai pas besoin, non. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. J'ai eu une transformation physique. Et je peux témoigner, Christ, qui m'a touché. Qualité d'un bon témoin. Un bon témoin doit être discipliné. La discipline dans l'église. Discipliné. Il doit respecter le sacré, il doit respecter les leaders, il doit respecter les orientations. Il doit respecter les moments de culte. Le culte commence à quelle heure? Tu viens à quelle heure? L'indiscipline n'est pas seulement mal dire. L'indiscipline aussi, c'est mal faire. La discipline dans les offrandes. Qu'est-ce que nous faisons avec nos offrandes? Deuxièmement, un témoin doit être intègre. Intègre. Ce qu'il dit doit corroborer à tout ce qu'il fait. Il doit être constant et fidèle. Le témoin doit être constant et fidèle. Le témoin doit avoir une forte opinion. En fait, quand tu es témoin, il faut que tu parles exactement avec force. C'est pourquoi, j'anticipe, Jésus s'est rassuré que pour que ces gens deviennent des témoins, il faut que je leur donne une puissance. Parce qu'un témoin qui n'est pas puissant, il dit comme s'il cache les choses, alors que c'est la vérité. Il faut qu'il y ait une forte opinion. Alors, quelques vérités, je veux donner 5 rapidement pour finir. Que Dieu m'aide à être fidèle dans tout ce qu'il m'a dit. La première vérité est que on ne peut être témoin, premièrement, que si on a été choisi et appelé. Jésus lui-même fait le choix des disciples. Il arrive ici, il arrive là-bas, il choisit le témoin. Il les met ensemble. Ça, c'est le niveau le plus bas de témoin. Si c'était les escaliers, le fait d'être choisi et appelé est là-bas. Parce que beaucoup ont été appelés, mais ils n'ont pas fini la course. Je me rappelle dans la barque où ça commençait à sombrer, Jésus avançait au devant de cette pirogue sur les eaux. Et Pierre qui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. En d'autres termes, appelle-moi pour que je témoigne. Et Jésus dit, Pierre, viens. Ça, c'est le niveau le plus bas. Jésus te dit, viens, va te faire montrer au sacrificateur. C'est le niveau le plus bas du témoignage. Deuxième vérité, on peut témoigner que quand on a été témoin direct, par définition, que si on a vu, on a palpé la réalité. Je disais que Marie, la femme de Cléopas, était présente à la croix. Elle a vu comment le Seigneur a été tué. C'est le niveau le plus bas qui vient juste après. Le fait d'être témoin direct. Il ne croit pas. Il y a des gens qui sont là, ils témoignent de mensonges. Ils étaient là, ils ne sont pas encore transformés. La femme de Cléopas était présente. Elle allait dire, non, ce que j'ai vu là-bas, certainement, il est le Seigneur des Seigneurs. Parce que même les Romains ont mis cette affiche. Celui-ci. Et quand, avant que le Seigneur expire, le ténèbre qui était là, et les gens ont dit, certainement il était. Mais parce qu'on a vu, on ne te donne pas le crédit que tu es un bon témoin. Jusque-là, c'est le deuxième niveau, trop bas. C'était ça l'erreur de Thomas. Thomas, on lui dit, le maître est ressuscité, dit, avant que je ne voie et je ne peux pas vous accepter. Et ce jour-là, Jésus arrive, il lui montre le main. Et ce jour-là, Jésus arrive, il lui montre et lui dit, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureux sont ceux, toi et moi, qui ont cru sans rien vu. Heureux sont ceux qui témoignent avant que la réalité n'arrive. Tu as raison de témoigner, tu as raison. J'aime Paul. Ah, cet homme de Paul, il se lève et il dit, désormais que personne ne me fasse du mal. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir le marque de Christ sur moi. J'ai un témoin muet sur moi. Il peut témoigner ce que je suis dans le Seigneur. Troisième vérité. On devient témoin de Jésus quand lui-même il se révèle à nous, pas en nous, c'est à nous. Il se révèle à nous. En nous aussi peut se dire. Il est dit que personne ne peut connaître Dieu que s'il ne se révèle. Que Dieu se révèle ce matin pour toi. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs parlent avec Jésus de Jésus. Parlent de Jésus avec Jésus jusqu'à ce qu'il se révèle. J'aime cette bonne éducation de l'Église. Imaginez-vous que Cléopas et sa femme n'étaient pas chrétiens et ils ont décidé de laisser Jésus partir la nuit. Bon, tu peux partir quand même, on a déjà discuté, tu pars. Mais cette générosité, oui, ce qui nous tue en Afrique, c'est cette générosité. On accueille de celui de gauche, on accueille de celui de droite et il s'élève comme ennemi. Je déclare que toute personne que nous avons accueillie chez nous va servir de bons témoins pour nous. Quatrième vérité, on est vrai témoin que quand l'Esprit de Dieu témoigne en nous. Le verset 49, le Seigneur dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. » Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Si l'Esprit n'est pas sur toi, en tout cas, témoigner de Jésus, c'est difficile. J'aime cette circonstance qui cet espace qui est décrit ici, témoin à Jérusalem, Judée, Samarie, le témoignage est circonstanciel, lié à un lieu, puis un autre. C'est-à-dire, si on te témoigne mal à Jérusalem, ne te précipite pas à aller à Judée. On risquerait de te témoigner mal à Judée. C'est pourquoi Jésus a dit, commençons ici. Si on parle bien de moi ici, quand Dieu va m'envoyer à Judée, même le témoignage de Jérusalem peut me précéder de l'autre côté. Beaucoup de gens se précipitent à aller à Judée en Samarie. Et ils salissent Jérusalem. Ils salissent Jérusalem, tout dépend de Jérusalem. Bâti d'abord ici pour aller bâtir là-bas. Sois vrai ici pour aller être vrai là-bas. Mais si tu es faux ici, tu risques de devenir faux là-bas. Tu risques de devenir faux là-bas. On ne fuit pas. On est envoyé. On ne fuit pas, on est envoyé. Vous avez fini à Jérusalem, il est temps pour la Judée, on se lève, on va à Judée. Vous êtes en Judée, il est temps pour la Samarie, on est en Samarie. Tu as intérêt de garder un bon témoignage partout où tu te trouves. Christ est l'exemple par excellence d'un bon témoin. La Bible dit dans 1 Jean 5, 7 à 8, je ne veux pas commenter là-dessus, parce qu'il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau, le sang. Et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Le premier témoignage, c'est ce que nous voyons. C'est par les eaux de baptême. Le deuxième témoignage, c'est le sang de Jésus qui t'a sauvé. En fait, pour parvenir aux eaux, il faut passer par le sang de Jésus. Le troisième témoignage, c'est l'Esprit lui-même qui est en toi et qui te dit, tu es enfant de Dieu. L'Esprit qui te convainc te dit, tu es enfant de Dieu. Cinquième vérité, pour finir, c'est ce qui m'a beaucoup béni. Souvent, on témoigne à l'absence du témoigné. Les disciples ne pouvaient pas parler de Jésus pendant que Jésus était là. Quand Jésus était parti, nous sommes le résultat de leur témoignage. Qu'est-ce que tu dis de l'autre quand il n'est pas là? Qu'est-ce que tu parles de cette église quand tu n'es pas ici à l'église? Qu'est-ce que tu témoignes de ton voisin quand il n'est pas là? On chantait une chanson quand on était encore à l'Écodim, on disait, quand on est ensemble, on rit. Quand on se tourne le dos, on se poignarde. Souvent, le vrai témoin témoigne à l'absence du témoigné. Jésus est parti, on porte l'étendard tout haut, il est ressuscité. On ne peut pas l'éprouver physiquement, mais on témoigne parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pour devenir un vrai témoin de Jésus, il faut l'avoir accepté. Il faut marcher avec lui, il faut qu'il se révèle en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu soit sur toi, que tu aies cette puissance de le dire. Les évangélistes sont en train de dire, nous n'avons plus honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que cet évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu veux recevoir cette puissance? Tu veux devenir un témoin fidèle? Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Comme je disais, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai. Je ne viens pas faire une promenade de santé. Je viens manger. Et quand le Seigneur dit qu'il va manger, il se pourvoit lui-même. Quand il trouve la 17, il vient avec cette provision. Il vient avec tout ce que tu as, le menu complet. Le menu complet. Et quand Dieu vient avec ce menu, c'est pas seulement pour lui. C'est pour nous faire du bien. Pendant que le pasteur avance, je veux vous rappeler que l'un des secrets que David demandait ou que David expérimentait dans le psaume 23, c'était « Tu prépares une table ». Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle beaucoup de la nourriture. Mais tu prépares une table. Au devant de qui? De mes adversaires. Les adversaires sont témoins autour de la table. Ah, je vous invite dimanche à la table du Seigneur et sois le vrai témoin de Jésus. Un jour.